Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je rappelle que les Montréalais peuvent rendre un dernier hommage à M. Mulroney aujourd'hui entre 10h et 18h à l'église Saint-Patrick. Hier, des dignitaires, on a vu M. Bouchard, M. Charest, l'ex-maire de Montréal, Gérald Tremblay, enfin des gens qui se sont rendus pour témoigner sur la carrière époustouflante de Brian Mulroney et offrir évidemment des mots de circonstance à la famille, qui, je le rappelle, est d'une dignité absolument incroyable, de voir Mme Mulroney, les enfants, debout, et c'est épuisant, on va en convenir, et recevoir tous ces gens qui viennent partager la peine de la famille. Et je voyais des gens qui attendaient depuis longtemps, et on parle de gens connus, mais aussi des simples citoyens, pour qui M. Mulroney représente un premier ministre qui a fait, qui a laissé sa marque. Et je vous le disais hier matin, le paradoxe des sondages, parce qu'en 92, quand il a quitté, il était au plus bas, à 12 %. Et un dernier sondage montre que 80 % et plus des Canadiens pensent qu'il a été un bon premier ministre, malgré toutes les décisions controversées qu'il a dû prendre durant son mandat. Et puis les funérailles auront lieu demain à la basilique Notre-Dame. Coup d'œil à l'international. D'abord, la situation à Gaza. Toujours pas de cessez-le-feu. Et vous avez le secrétaire d'État américain, Blinken, qui en est à sa sixième visite en Israël. Tout ça pour essayer de négocier un accord de cessez-le-feu. Il fait une tournée régionale. Et l'objectif demeure la même, un cessez-le-feu en échange de la libération d'otages israéliens et la libération de prisonniers palestiniens. Alors, est-ce que ça va finir par aboutir? On verra. Entre-temps, les constats des différentes organisations humanitaires sont terribles. On parle beaucoup de la famine des organisations qui considèrent qu'Israël utilise la famine comme une arme de guerre. Et encore, l'approvisionnement est complexe. Il y a des médecins américains qui sont revenus à Washington, qui ont travaillé sur le territoire de Gaza dans les hôpitaux et qui ont eu un message hier assez, disons, clair et précis en disant « Nous devons témoigner de ce que nous avons vu sur place. C'est impossible de soigner les gens. C'est impossible d'offrir du réconfort et de pouvoir faire un strict minimum quand on se fait bombarder, quand l'approvisionnement d'équipement est impossible, ou encore quand il y a des coupures de courant à répétition. Et juste pour conclure là-dessus, il est très clair aussi qu'Israël maintient sa volonté de se diriger vers Rafah. Pour ce qui est de l'Ukraine, évidemment, des opérations militaires qui visent notamment les infrastructures électriques. Il y a eu des frappes également du côté de la Russie. Donc, ça continue. Et même la capitale a été touchée par des bombardements. Ça faisait déjà un petit bout de temps qu'il n'y avait pas eu d'opération militaire de cette nature. Et puis, à Port-au-Prince, rien de nouveau. Si ce n'est qu'il y a du chaos dans les rues. Des quartiers plus nantis ont été également visités par ces gangs armés. L'agence France-Presse rapporte que le chef de gang, un des chefs de gang, pas le fameux barbecue, là, mais T. Craig, qui s'était évadé de prison, a été abattu par la police. Sur le plan politique, peu de développement, des tractations, des pourparlers entre les différents partis, mais il n'y a aucune annonce, aucune décision formelle qui a été effectuée. Donc, vous avez un premier ministre qui se cache à Porto Rico, qui dit « je vais démissionner », mais quand on va savoir finalement à quel moment il y aura un vrai gouvernement provisoire, qui va former ce gouvernement Et là, il va quitter. Et comment les gangs armés vont réagir? Est-ce que, et ce serait étonnant, là, qu'il y ait une forme d'entente, d'un cessez-le-feu, un traité de paix avec ces gangs qui contrôlent, quoi, 80 % de la capitale, Port-au-Prince. Voilà pour le volet international. Jean-François Lépine sera avec nous plus tard pour faire le tour de ces questions. Maintenant, je vais vous parler du monde agricole et de l'immigration. C'est un matin où il y a plusieurs nouvelles qui touchent l'immigration, en particulier les travailleurs temporaires. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent qu'actuellement, la saison qui doit commencer autour du 1er avril, là, préparer les terres québécoises, là, c'est compromis parce que des travailleurs mexicains qui doivent venir au Canada ne sont pas encore rendus et on se demande s'ils vont être capables de se rendre à temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Mexique, une guerre de bureaucratie. Il y a toute la notion des visas qui ont été imposés, mais en principe, ils devraient pouvoir venir ici. Et ce sont des gens qui travaillent pas dans leur pays, qui attendent pour venir sur les terres québécoises et qui ne peuvent le faire. Donc, ce litige fait en sorte que ça pourrait retarder l'arrivée de ces travailleurs qui sont là essentiels pour la production agricole québécoise. Ce matin, dans le Journal de Montréal, on explique que si les travailleurs ne viennent pas, il y a des entreprises qui vont se retrouver en difficulté. Et l'autre réalité, c'est que ça peut mettre de la pression sur les prix. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une flambée des prix des légumes québécois s'il y a ces retards? J'ai l'impression de vivre ce scénario depuis quelques années, là, à répétition. Premier volet, donc, tous ces travailleurs temporaires. D'autre part, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de réduire un peu le nombre des travailleurs temporaires, les étudiants et tout ça. Donc, ceux qui, de façon provisoire, s'installent au Canada. C'est le ministre Mark Miller qui a dit ça. Et il ajoute qu'il veut tenir un sommet au mois de mai sur les questions d'immigration. Et ces questions-là sont vitales. Il y a tellement de complexité dans les dossiers. On l'a vu hier avec notre jeune fille originaire d'Ukraine, qui rentre pas dans un programme. Il y a deux cabinets ministériels qui nous ont contactés hier pour essayer de trouver une solution parce qu'ils ont entendu son témoignage. Je rappelle, une jeune fille qui vient ici au tout début de la guerre en Ukraine, qui obtient son visa d'urgence et elle cherche le programme qui lui permettrait de rester ici avec sa cousine qui est implantée au Canada depuis longtemps. Elle est dans un processus de francisation. Puis là, vous apprenez ce matin qu'il y a près de 155 000 travailleurs qui veulent immigrer au Québec. Des gens qui se sont inscrits. Malgré les contraintes, là, il y a beaucoup d'étrangers qui ont le goût du Québec. Radio-Canada a obtenu des chiffres. Quand vous regardez ceux qui sont les plus intéressés, vous avez les Algériens qui arrivent en première place, au-delà de 20 000 demandes. Les gens du Cameroun, les Marocains, les Sénégalais, les Égyptiens et des Syriens qui constituent le noyau là de gens qui veulent s'établir ici. Donc, comme vous le voyez, le dossier de l'immigration est complexe. Il y a une diminution qui est souhaitée par Ottawa, par Québec. La capacité d'accueil, là, il y a un jugement qui a été rendu qui permet donc aux gens, aux réfugiés, d'avoir accès aux services de garde. Et je pense que c'est important. Puis vous avez des données sur les mouvements migratoires au Québec qui montre quoi? Très clairement, là, les gens qui habitent ailleurs qu'à Montréal sont de moins en moins intéressés à venir à Montréal. Les raisons sont nombreuses, là. On peut penser au coût du logement. On peut penser qu'ils peuvent se trouver très bien du travail dans leur coin. Le télétravail a permis à des gens d'aller s'établir en région. Ils ne veulent pas revenir à Montréal. Et c'est une tendance lourde. Comment la population de Montréal augmente? Par l'immigration. Qui font des enfants? Les immigrés. Majoritairement, cette courbe démographique le prouve. C'est le visage de Montréal qui change. Puis autour de Montréal, première couronne, deuxième couronne, il n'y a pas cette volonté de venir s'installer. On aime mieux passer notre vie ailleurs. Alors que pendant des années, Montréal était un attrait. Tu venais étudier à Montréal, puis tu habitais à Montréal ou à proximité. Donc, il y avait espèce de pouvoir d'attraction de la métropole, ce qui, manifestement, n'est plus le cas, sauf peut-être pour les gens qui arrivent de l'extérieur. Parlons de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui a été rejeté par le Sénat français, espèce de coalition de la droite et des communistes, dans un contexte politique très particulier, c'est-à-dire des élections européennes, de la grogne des agriculteurs. Puis on a vu les réactions hier. L'accord a été conclu il y a plusieurs années, s'applique depuis ces années-là, donc la disparition quasi totale des tarifs douaniers, là, pas complètement, mais presque. On a prétendu que l'accord faisait en sorte que des produits, comme par exemple les produits la viande, pouvaient se retrouver en France, puis que c'était pas les mêmes conditions d'hygiène, c'est pas les mêmes conditions de production, de l'utilisation d'hormones, etc. Ce que le Canada a nié. Donc, on s'est servi de ces prétextes pour bloquer au Sénat, dans ce contexte politique, l'accord de libre-échange. Je lisais ce matin dans Le Monde des experts, et des experts canadiens qui disent que c'est de la foutaise parce que la France a profité largement de l'entente pour la vente de ses produits. Puis on peut penser au vin français, on peut penser au fromage, on peut penser à d'autres produits qui sont maintenant disponibles. Et le Canada, un peu moins. Et que c'était pas du contexte là, politique vraiment, pas certain que le Sénat aurait dit non à cette proposition. On va y revenir un peu plus tard avec Pierre-Marc Johnson, qui a été le négociateur dans ce dossier-là. Maintenant, le métro de Montréal, des chiffres ce matin nous montrent que les plaintes des usagers ont triplé depuis 10 ans. Ça ne vient que confirmer ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on a comme cas de gens qui se sentent insécures dans le métro de Montréal. Et quelles sont les plaintes? C'est quoi la nature des plaintes? Essentiellement, je vous dirais, la sécurité avec le sentiment de sécurité par rapport aux itinérants, la flânerie des mendiants, problème de drogue, d'alcool, intimidation, la loi anti-tabac, agression, comportement des fois des jeunes en gang. C'est assez marginal. Mais la moitié des plaintes, c'est lié aux itinérants, par la consommation d'alcool ou de stupéfiants, là, dans le métro de Montréal, avec des passagers qui se sentent pas bien, pas confortables, espèce de sentiment d'insécurité, parce que c'est vrai que, et c'est pas toujours des agressions, mais il y a une présence là qui fait qu'on se sent pas bien quand on est dans un tunnel ou dans un wagon. C'est quand même une augmentation importante. Rapidement, dans les autres nouvelles, une décision de la Cour d'appel qui fait en sorte que les moins de 18 ans qui veulent modifier la mention du genre sur leur document civil devront présenter une lettre d'un professionnel de la santé. C'est une décision qui vient renverser une autre décision de la Cour supérieure qui avait donc invalidé l'obligation pour un mineur de 14 ans et plus qui voulait donc changer officiellement de sexe sur ses documents légaux de fournir une lettre d'attestation en disant il n'y a pas à faire ça. Ben là, il va devoir le faire. Et je pense que quand on a moins de 18 ans, c'est le type de démarche qui doit être encadrée. Quand on a moins de 18 ans, on ne peut pas prendre des traitements qui sont irréversibles, je pense. Et qu'il faut accompagner ces jeunes-là. Mais quand je dis accompagner, il faut aussi mettre un cadre pour justement que ça se fasse dans le respect des gens, mais en tenant compte qu'ils sont mineurs. Et il y a une tendance très forte à dire qu'à 14 ans, tu peux décider et prendre des... Je parlais de ça avec Christian Dufour l'autre jour, le politologue, qui disait, il y a toujours bien des limites, là. De dire, moi, je vais subir une intervention, puis à 18 ans et plus, peut-être, mais pas à 14-15 ans, et prendre des bloqueurs d'hormones, comme on le voit actuellement. Je rappelle cet accident aussi à Chappey, 5 morts. C'est une fourgonnette qui a pris feu après la collision. Les 4 occupants ont péri, et le conducteur de l'autre véhicule. On n'a pas beaucoup de détails sur les circonstances exactes. Il n'y aura plus de vols de nuit à l'aéroport de Saint-Hubert. C'est la décision prise par le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez. Il y avait une volonté clairement exprimée de Chronoaviation, de pouvoir, pour toutes sortes de raisons, là, maintenir les vols de nuit, mais ça fait du bruit. Les citoyens se sont plaints. Transport Canada a tranché dans cette direction. Et je termine en vous disant que des Américains ont Apple dans le collimateur pour ce qui est des lois anti-monopole. Considèrent que Apple a développé une stratégie d'affaires qui écrase la compétition. Et là, on donne des exemples. Que le iPhone ne permet pas le jumelage facile des autres produits. Si tu as une montre qui n'est pas une montre Apple, tu peux jumeler, mais disons que c'est une démarche plus complexe. Et là, Apple se défend en disant, ben c'est un peu normal que nos produits soient fluides, que votre tablette, votre ordinateur, votre téléphone, votre montre, tout ça fonctionne à l'unisson. Et des développeurs d'applications qui disent, il n'y en a que pour eux. Et Apple se défend de ça. Donc, c'est une longue procédure. C'est un document de 88 pages. Mais c'est pas la première fois que des géants, et là, on parle d'un puissant géant, là, Apple, est ciblé par les autorités. C'est vrai aussi en Europe sur les différentes pratiques commerciales.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Depuis hier, et ça continue évidemment aujourd'hui, les Montréalais, les Québécois peuvent venir rendre un dernier hommage à l'ancien premier ministre Brian Mulroney. Les funérailles auront lieu demain à la basilique Notre-Dame, à compter 10h ce matin à l'église Saint-Patrick. Et c'est avec grand plaisir que nous recevons ce matin un de ses fils, Ben Mulroney. Monsieur Mulroney, bonjour.
Monsieur Arcan, bonjour. Il faut que je vous dise, nous, on a perdu notre père. Le Canada a perdu un grand homme. Mais vous, vous avez perdu votre fan numéro un.
Oui, je sais, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger souvent avec lui. Puis je vais partager avec vous quelques anecdotes. Mais vous dire d'abord que toutes nos pensées, je me fais un peu le porte-parole des auditeurs, des auditrices, d'être avec nous ce matin. Et on pense à vous avec votre famille aussi.
Ben, on vous remercie énormément.
Quand quelqu'un comme ça décède, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de tristesse, d'émotions. C'est comme un peu un mélange de tout ça. Quand il est décédé, vous avez pensé à quoi? Vous êtes dit, oui, c'est le premier ministre, mais vous, c'est votre père.
Non, 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 on a perdu notre père, point final. Quand il nous a quittés, il y a beaucoup de choses qu'on a dû faire. Et on a dû parler au premier ministre, on a dû commencer toutes les organisations pour ce grand moment. Donc, on a une expérience assez unique. Mais comme tout le monde, quand on perd quelqu'un qui est tellement important, ça te cause à penser à se souvenir des moments intimes, des moments personnels. C'était un homme qui adorait sa famille. Il adorait ses petits-enfants, ses 16 petits-enfants. Donc, j'ai pensé souvent à mes enfants et que ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu la possibilité. Moi, j'ai eu 48 ans avec mon père et j'aurais aimé que mes fils et ma fille auraient eu plus de temps avec leur grand-père. Donc je pense souvent à cette perte.
On connaît le premier ministre de l'extérieur. Parlez-nous du père. Quel genre de père il était?
Mais je dis souvent que, oui, si on regardait son itinéraire quand il était premier ministre, on pourrait dire qu'il était absent très souvent. Et oui, il n'était pas physiquement présent tout le temps. Il fallait qu'il voyage, il fallait qu'il passe du temps sur la colline parlementaire. Mais il était toujours une présence dans notre vie, même s'il n'était pas présent physiquement. Et je ne sais pas exactement comment il l'a fait. Je pense que ça avait beaucoup à faire avec ma mère, qui renforçait sa présence, même quand il n'était pas là. Et donc, pour nous, c'était un homme qui était toujours dans notre vie, toujours impliqué, toujours. Il connaissait toujours ce qu'on faisait, ce qui n'était pas toujours idéal quand tu avais 15-16 ans. Pour moi, c'est quand je pense à mon père, c'est quelqu'un qui était toujours là, qui est toujours impliqué dans notre vie. un homme avec une priorité pour sa famille qui était
Il m'a raconté un jour, vous parliez de l'adolescence, quand on est au 24 Sussex, notre père est premier ministre, puis les années de turbulence arrivent un peu, vous êtes protégé par des gardes du corps. Et après une sortie que vous aviez faite, il avait demandé aux gardes du corps, et alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a abusé? Comment ça s'est... Et le garde du corps lui a dit, je peux pas vous répondre, M. Mulroney. Mon job, c'est de protéger votre fils. Je suis pas le nounou, là. Je suis pas en train de vous dire ce qu'il va faire.
C'était pas toujours l'histoire, parce que je vous promets, M. Arcan, la première fois que je suis venu visiter à Montréal avec mes amis, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, on est parti sur la rue Saint-Laurent.
Okay.
Puis je commence à danser avec une très belle fille. Et j'ai vu le garde du corps prendre des notes.
C'est vrai?
Oui. Et une fois arrivé à la maison, mon père avait un dossier. Il savait exactement tout. Il savait tout. Du début du voyage jusqu'à la fin.
C'était pas le même garde du corps.
C'était pas le même garde du corps. Peut-être qu'il les a remplacés.
Peut-être parce qu'il collaborait pas assez.
Oui, exactement.
Est-ce qu'il vous a fait la morale un peu après ça?
Il voulait juste savoir. Il avait un sourire. Je pense qu'il avait même une photo de la fille avec qui je dansais. Donc, je pense qu'il était pas mal content.
Depuis l'annonce de son décès, il y a eu beaucoup de témoignages. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, que vous avez été surpris, que vous avez peut-être même découvertes?
Bien, on n'était pas surpris des histoires de son désir de parler, de lancer dans une conversation par téléphone avec qui que ce soit, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un d'un autre parti politique. Pour lui, le téléphone, c'était le mode de communication préféré pour beaucoup de situations. Mais ce qui m'a surpris, c'était quand les ambassadeurs ont passé en ligne à Ottawa, et il y avait tellement qui sont venus avec des histoires d'une décision qu'il a prise il y a 30-35 ans, qui a changé la vie des citoyens de leur pays. Donc ils sont pas venus juste pour dire nos condoléances, ils sont venus dire merci. Et pour moi, ça m'a frappé parce que c'était, je pense, la preuve que un premier ministre peut prendre une décision dans une génération qui, la génération prochaine, a encore des ramifications.
Il disait, on prend des décisions quand on est premier ministre qui sont pas populaires. Non. La preuve, quand il a terminé son mandat, il était à 12%. Non. Mais il dit, ce sont des décisions qu'il faut prendre. Et l'histoire va finir par nous donner raison. Je regardais des sondages cette semaine. 80% et plus des Canadiens pensent qu'il était un très bon premier ministre. Il y avait cette capacité-là, cette vision quand même de la fonction, quitte à pas être très populaire.
Il y a une femme qui est venue hier nous rencontrer et elle a dit, j'ai jamais voté pour votre père, j'ai jamais voulu voter pour votre père. Ensuite, elle a pris une petite pause, elle a dit, je me suis trompée. Et ça m'a frappé au cœur. Parce que je pense que pour lui, il savait qu'il y avait certaines décisions qu'il allait prendre qui lui auraient rendu pas populaire du tout. Mais il savait dans quelques années, peut-être une génération, ces mêmes personnes qui étaient très fâchées contre lui allaient changer d'avis. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il était correct.
Qu'est-ce qui vous a légué en termes d'héritage, de valeur, de façon de grandir dans la vie, là, puis d'élever vos propres enfants?
Mais je pense que l'histoire qu'on voit, on entend parler de sa gentillesse, de sa tendresse, de son humour, de l'importance de la famille. Je pense pour moi, c'est ces valeurs qui sont les plus importantes. Ça n'a rien à voir avec la politique, c'est ses relations interpersonnelles. Je pense qu'il est devenu un grand succès à cause de sa personnalité, à cause de ses valeurs. Il aurait pu être un grand... il a été un succès dans le business. Il aurait pu faire quelque chose d'autre. Et c'est ses valeurs personnelles qui ont dirigé son succès. Et ça n'a rien à voir avec la politique.
Il ne faut pas négliger le rôle de votre mère dans tout ça.
Non, jamais. Jamais. C'est sans elle, mon père a dit, sans ta mère, Ben, j'aurais été un partenaire un grand succès comme avocat, mais c'est tout. Mais j'ai voulu faire plus, et sans elle, j'aurais pas pu faire plus.
Et là, vous avez préparé des émissions, vous me disiez ça, oui. Pour Chorus.
C'est ça.
Et pour rendre hommage à votre père, et vous avez parlé à plein de gens.
Oui, j'ai parce que je savais qu'on allait entendre des histoires de sa vie en politique, de sa vie ici à Montréal, en business. Je sais que ses expériences à Québecor, il y avait tellement de gens de Québecor qui sont venus nous remercier d'avoir partagé notre père. Mais il manquait pour moi et pour ma famille les histoires personnelles. Et donc j'ai rassemblé un nombre de gens importants dans la vie de mon père, le président Clinton, président George W. Bush, Wayne Gretzky, Michael Bublé, David Foster, Reba McEntire pour parler de Brian Mulroney la personne avec des histoires et des portraits un peu plus intimes. Et surtout on a parlé de son amour de chanter, son amour de musique. Et donc c'est un spécial qui va passer je pense à 17h aujourd'hui sur les stations Chorus partout au Canada. Ça c'est l'édition d'une heure. Demain c'est le spécial en entier de 2 heures à je pense après les funérailles. Et on a vraiment voulu partager l'histoire un peu plus intime de mon père avec les Canadiens.
Vous parlez de sa passion de la musique et ça, je dirais presque son obsession de vouloir chanter.
De plus en plus, hein?
Oui. Une anecdote comme ça, un jour, il me téléphone et il me dit « Est-ce que tu seras à la station lundi? » J'ai dit « Oui. » Il dit « J'ai quelque chose pour toi. » Là, tu dis « Monsieur Mulroney, venez me porter quelque chose, mais de quoi s'agit-il? » Alors, il arrive ici. Il dit « Est-ce qu'on peut aller dans un studio? » J'ai dit « Certainement. » Et il est avec son chauffeur et il me remet un CD. Mais j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a sur le CD? » Il dit « Mets ça dans l'appareil, puis fais jouer ça. » Et là, je l'entends chanter.
Oui.
Là, il me raconte...
Je pense que c'est 18 chansons qu'il a enregistrées.
Il avait loué un studio avec des musiciens pour vrai. Là, c'était pas... Et il voulait faire ça un peu pour vous remettre ce disque-là, pour que les enfants puissent entendre leur grand-père.
C'est ça, ses petits-enfants. Oui. C'était vraiment important pour lui que ses petits-enfants sachent combien il aimait chanter, il aimait la musique.
C'est incroyable. Ouais. Mais je dis, pourquoi vous me donnez ça? Eh bien, il dit, pour que tu fasses jouer ça à la radio. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait.
When Irish eyes are smiling, sure just like a morning spring, in the lilt of Irish laughter, you can hear the angels sing. When Irish hearts are happy, all the world seems bright and gay. And when Irish eyes are smiling, sure they steal your heart away.
Monsieur Mulroney, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci, Monsieur Arcan.
Et en terminant, je pense que les Québécois ont vu la grande famille Mulroney, de recevoir tous ces témoignages à Ottawa, à Montréal, de rester debout, ça peut devenir long, épuisant, mais vous avez fait ça avec grande dignité.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Hier, le Sénat français a voté contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, un traité qui avait été conclu en 2016 et qui d'ailleurs est appliqué. Il faut voir évidemment tout le contexte politique et avec Pierre-Marc Johnson, qui a été le négociateur en chef du Québec pour cet accord de libre-échange, comprendre exactement quels sont les enjeux. Monsieur Johnson, bonjour.
Bonjour.
D'abord, ce vote, c'est une bizarre alliance là, entre la gauche et la droite. Comment vous expliquez que le Sénat ait dit non?
Oui. Alors d'abord, il faut comprendre que le Sénat français est une organisation, une structure politique qui représente les différentes régions de France à travers les maires, les régions, etc. Et c'est un, en fait, c'est comme un collège électoral, si on veut, des élus non nationaux, d'une part. Et c'est important parce que ça explique une surreprésentation du monde rural. Et il y a en France, on le sait, beaucoup d'agitation dans le monde de l'agriculture. Le gouvernement en est un peu nerveux. Le gouvernement avait décidé depuis longtemps de ne pas présenter la demande de ratification pour un certain temps. Tant et aussi longtemps que les choses ne se calmaient pas, mais le Parti communiste a réussi à inscrire le vote sur cette question. Et donc, ça s'est fait dans un contexte qui n'était pas favorable à son adoption. Il faut bien comprendre là, qu'il y a eu beaucoup de désinformation dans le monde agricole en France concernant cet accord. On dit que les gens vont manger du poulet lavé au chlore. On leur a dit qu'il y aurait du bœuf aux hormones. Que le porc est inadéquat, alors que, un, on exporte très peu de ces choses et les exportations possibles étaient contingentées, c'est-à-dire qu'il y avait des limites à ce qu'on pouvait exporter. Et deuxièmement, il y avait cette désinformation à laquelle il a été difficile de répondre dans un contexte très tendu.
Le fait que donc le Sénat ait voté contre, quel est l'impact? Ça retarde? Est-ce que ça vient entraver l'accord de libre-échange?
Oui, c'est une très bonne question. En pratique, ça ne changera rien pour le moment et pour un bon bout de temps. Et je m'explique, la mise en place d'un accord de libre-échange, c'est-à-dire l'abolition des tarifs en bonne partie, là, essentiellement, c'est ce dont il s'agit, ce qui nous a permis, nous, d'exporter beaucoup dans l'agriculture maraîchère, et dans d'autres secteurs, la mise en place de cet accord ne dépend pas du gouvernement français. Ça dépend des institutions européennes où siège le gouvernement français avec 26 autres pays. Or, en ce moment, l'accord est en application dite provisoire. Pour arrêter l'application de l'accord, il faudrait qu'il y ait 15 pays qui représentent 65% de la population européenne qui décident de mettre fin à l'application de l'accord. Or, il y a déjà 17 pays sur 27 qui l'ont approuvé. Donc, on fait le calcul de vite, vite là. On n'a pas de raison de penser que 15 pays, parce que ça nous amènerait au-delà des 27, représentant 65% de la population européenne, vont cesser de vouloir appliquer cet accord. Donc, en gros, il n'y a pas d'effet immédiat. Il va avoir un effet politique. Les gens vont rediscuter de certaines choses, probablement, mais je ne vois pas, moi, d'effet concret. Et le Québec en profite. Hein? Le Québec en profite. On a augmenté de 75% nos exportations de sirop d'érable. On exporte 4 fois plus de canneberge qu'avant. Les ouvrages en aluminium qu'on exporte. On en a 3 fois plus qu'on exporte maintenant. La même chose pour les plastiques et les produits de ce type. Alors, c'est un accord qui nous est en partie favorable, qui est en partie favorable aux Français qui exportent beaucoup plus de vin qu'avant. Je pense que ça s'explique un peu par la COVID. Et deuxièmement, qui ont fait leur quota de fromage. C'est-à-dire que en vertu de l'accord, on acceptait que les Français, que l'Europe exporte un peu plus de fromage, puis ils en exportent. Ils ont pris leur quota. Alors, en gros, tout ça est favorable et n'est pas changé par cette décision du Sénat.
Je voyais les propos de Richard Ouellette, qui est un spécialiste des enjeux là, de mondialisation économique à l'Université Laval, qui dit qu'au contraire, là, il est comme vous, il dit qu'il y a eu beaucoup de désinformation du côté français, mais qu'au final, c'est la France qui est la grande gagnante de l'opération.
Elle est en bonne partie, d'un point de vue européen, absolument. C'est elle qui a réussi à augmenter ses exportations le plus, notamment vers le Québec et donc je disais le fromage, les vins, et puis certains nombres de produits comme les produits de beauté, les produits de maquillage, les parfums, les sacs à main, bon, tout ça a augmenté de façon extrêmement importante du point de vue français, sauf le fromage, là où ils ont rempli leur quota, puis ils avaient accepté qu'il y ait un quota. Alors, en gros, Ça démontre quoi? Ça démontre que les questions de libre-échange sont peut-être loin de la vie quotidienne des gens. Deuxièmement, qu'il est facile de faire de la démagogie à ce sujet-là et puis de mettre tous les mots de la terre sur le dos des accords de libre-échange. La réalité, c'est que le libre-échange est favorable à la fois au Canada et à la France, et particulièrement à la France dans le cas de l'Europe.
En terminant, est-ce que vous sentez à travers le monde, là, parce qu'il y a beaucoup d'accords de libre-échange, un certain protectionnisme qui serait de retour? Là, on parle de la crise agricole en France, on voit Trump aux États-Unis, on peut penser à Poilievre, puis dans d'autres pays également, une espèce de montée du protectionnisme.
Oui, effectivement, il y a une montée du protectionnisme en ce moment. Et les conséquences que ça peut avoir, dans l'immédiat, on peut penser qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveaux accords de libre-échange qui vont se signer, là. Alors que pendant 30 ans, ils s'en signaient bouche te veux-tu à travers le monde. On peut penser là, que la cadence va diminuer. Qu'on remette en cause les accords de libre-échange, proprement dit, dans le discours, oui. Est-ce que dans la réalité, on va changer ça? Parce que nos économies sont très alignées sur ces questions. Je dirais probablement pas. Il va peut-être y avoir des aménagements, des litiges importants où on va essayer d'interpréter de façon plus autarcique, si on veut, là, protectionniste, les accords. Mais les accords qui sont en place n'ont pas de raison de changer. On le sait que M. Trump, dans son premier mandat, en présumant qu'il pourrait peut-être en avoir un deuxième, dans son mandat, M. Trump a remis en cause l'ALENA, puis il y a eu une négociation qui, en bout de ligne, là, on se comprend, n'a pas changé grand-chose. Et pourquoi? Parce que c'est important, le commerce international, parce que c'est pas vrai qu'on va faire pousser des oranges ici, et c'est pas vrai qu'un marché intérieur, dans le cas du Québec, de 8 millions, du Canada, 34 millions, est suffisant pour faire des productions massives. Ça nous prend des marchés d'exportation. Puis il s'agit de trouver des règles raisonnables, puis faire des échanges. Alors, c'est ça les fondements, mais vous avez raison, M. Arcan, il y a une tendance protectionniste dans les milieux politiques qui aurait peut-être besoin de relire un peu les statistiques, les chiffres et l'intérêt que représente le libre-échange.
M. Johnson, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Au revoir. Pierre-Marc Johnson, qui a été le négociateur en chef du Québec pour l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Maintenant, à Québec, le projet de loi 42, qui est destiné à combattre et à prévenir le harcèlement et les violences sexuelles en milieu de travail, a été adopté hier en fin de journée. Le ministre du Travail, Jean Boulay, est avec nous. Monsieur Boulay, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcan. Comment allez-vous?
Très bien. Monsieur Boulay, dites-moi, qu'est-ce que la loi vient changer? Quelles sont les mesures là, qui n'existaient pas avant?
Bon, d'abord, rappelez, Monsieur Arcan, qu'il y a eu une enquête sur les inconduites sexuelles menée par Statistique Canada qui révélait que 49 % des Québécois dans leur milieu de travail observaient ou avaient subi un comportement sexualisé inapproprié au cours de l'année 2020. Il y a 69 % des personnes qui ne dénoncent pas. Donc, le projet de loi vise à répondre à cette problématique-là qui a des effets tellement dommageables. Un, on interdit que les clauses d'amnistie empêchent les employeurs d'effectuer leur gradation des sanctions dans le cas de comportement physique ou psychologique. On crée une
équipe
spéciale.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, il y a des clauses dans les conventions collectives qui disent, au bout d'un an, un an et demi, deux ans, on peut plus tenir compte, quand on est employeur, d'une infraction qui a été commise en matière de violence à caractère sexuel. Ça s'efface, ça quitte le dossier disciplinaire. Donc, on vient dire que ces clauses-là n'empêcheront pas l'employeur de considérer des comportements antérieurs en matière de harcèlement psychologique puis violence sexuelle. C'est une avancée qui est considérable, qui va permettre notamment de bien identifier les récidivistes et de s'assurer qu'ils ne puissent plus répéter de mêmes comportements. Deuxièmement, ce qui est super important, c'est qu'on crée une équipe spécialisée au tribunal administratif du travail de juges, de conciliateurs qui sont formés en matière de mythes et stéréotypes, en matière sexuelle, et ils vont accompagner, ils vont faciliter le processus pour les personnes victimes. Donc, ça va être un accompagnement nettement amélioré. Il y a aussi une protection. Là, tu sais, il y a eu un sondage léger, d'ailleurs, fait pour le compte de la Commission de la construction du Québec, qui révélait que 79 % des travailleurs et travailleuses qui étaient témoins ou qui subissaient des menaces, intimidations, harcèlement, ne signalaient pas par peur de représailles ou de perdre leur emploi. Donc, il y a un article dans le projet de loi qui prévoit que ces personnes-là vont être protégées. Et s'ils dénoncent, s'ils font une plainte, la représaille ou la perte d'emploi sera annulée. Il y a aussi une avancée importante, là, parce que on doit mettre en place dans chaque milieu de travail une politique de prévention qui assure la confidentialité du dossier médical des victimes. Il y a des personnes qui vont les prendre en charge. Et le harcèlement, même s'il provient d'un client ou d'un fournisseur, d'une autre personne que quelqu'un qui est à l'intérieur du milieu de travail, on va devoir, du côté des milieux de travail, prendre des mesures pour faire cesser ce harcèlement. Donc, il y a quand même plusieurs mesures qui vont nous permettre de lutter, de combattre. Puis je pense qu'ultimement, si on intègre des cultures de signalement dans les milieux de travail, on va pouvoir atteindre la tolérance zéro qui est visée. Puis ça, ce projet de loi, souvenez-vous, M. Arcan, le rapport « Rebâtir la confiance » en décembre 2020 sur les violences sexuelles et conjugales, il y avait une recommandation qui concernait mon ministère. Dans les milieux de travail, c'est compliqué. Il y a beaucoup de recours. J'ai demandé à des experts de me faire des recommandations et le projet de loi répond à ces recommandations.
OK. Je vais vous poser des questions pratico-pratiques. Vous parlez, on parle beaucoup des employeurs, des employés, mais vous parlez également des clients, des fournisseurs. Est-ce que ça voudrait dire, là, si je prends un exemple ce matin, qu'un client qui se présente, je sais pas moi, dans un magasin, qui lève le ton, qui harcèle, qui a un comportement agressif, est visé par les mesures que vous annoncez?
Oui, absolument. Le client qui vient ou le fournisseur qui commet une inconduite, soit des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle qui sont non désirées, il faut que l'employeur s'assure de prévenir et de prendre en charge la personne qui en est victime et d'éviter que le tiers, soit le client ou le fournisseur, continue la pratique qui a un effet évidemment extrêmement négatif sur la personne qui est concernée.
Autre exemple, et là c'est un exemple complètement à l'inverse. Beaucoup d'auditeurs me disent, est-ce que dans certains milieux, ça ne devient pas une arme contre un employé, contre un supérieur? Je vous dis pas que c'est largement répandu, mais ça existe des fausses allégations. Comment vous gérez ça?
Ah ben absolument. Puis là maintenant, quand on parle de politique de prévention dans chaque milieu de travail, évidemment, il va y avoir une enquête. Et la personne, souhaitons qu'elle soit neutre et objective, c'est ce que le projet de loi veut. Elle va rencontrer les témoins, puis souvent, le rapport conclut qu'il n'y a pas eu de harcèlement ou qu'il n'y a pas eu de violence à caractère sexuel dans plusieurs cas. Donc, il faut avoir un processus d'enquête qui nous mène à une conclusion claire, à savoir s'il y a eu du harcèlement psychologique ou une violence à caractère sexuel.
Mais est-ce qu'il y a une conséquence pour les gens qui font de fausses allégations?
Ben, oui, tout à fait. Quelqu'un qui est de mauvaise foi, puis que l'enquête révèle que la personne a fait ça de façon totalement abusive ou non fondée et qu'il y a une mauvaise intention, oui, cette personne-là est toujours susceptible de recevoir une sanction disciplinaire de la part de l'employeur. C'est important de le rappeler. On veut plus qu'il y ait de violence sexuelle, on veut plus qu'il y ait de harcèlement psychologique, mais on veut plus non plus les accusations qui ont aucune valeur.
L'autre question, qu'est-ce que vous dites aux employeurs ce matin, là, qui vont sans doute dire, là, vous en mettez beaucoup sur nos épaules. Oui, on a une responsabilité, mais on peut pas tout savoir, tout contrôler sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, par exemple.
C'est une excellente question, puis il faut être attentif, vigilant. Il y a des fois qu'il y a des signes, qu'il y a des symptômes qui permettent à un employeur de détecter un salarié qui est victime. Puis c'est certainement bénéfique de prendre en charge cette personne-là parce qu'il y a des effets corrosifs sur son efficacité, son bonheur, sa productivité. Puis en même temps, s'il n'y a pas de signalement, C'est sûr qu'un employeur ne peut pas rien faire. C'est pour ça que la loi vient protéger les personnes qui font un signalement ou qui collaborent à une procédure de signalement qui est entamée par un autre salarié.
Ben justement, je fais une parenthèse tout de suite parce que protéger quelqu'un qui fait un signalement, protéger un sonneur d'alerte, sur papier c'est beau, mais en pratique c'est autre chose. Si je fais un signalement, il y a rien qui dit qu'il y a pas des collègues qui vont se retourner contre moi. Il y a rien qui dit. Quelle sorte de garantie vous donnez aux gens?
Ah, vous avez totalement raison. Mais quelqu'un qui... Quand je reviens au sondage léger commandé par la CCQ, si 79 % des travailleurs et travailleuses ne font pas de signalement par peur de représailles ou de perdre leur emploi, en sachant qu'ils sont protégés, en sachant que la représaille ou la perte d'emploi peut être annulée par le tribunal, c'est sûr que c'est favorable à intégrer une culture, il faut dire. Mais évidemment, chaque cas en est un d'espèce, puis chaque cas est particulier. Faut s'assurer cependant qu'on lutte de la manière la plus intelligente possible.
Je comprends que vous donnez les outils, mais l'expérience monte dans des sonneurs d'alerte, que souvent c'est le sonneur d'alerte qui est pénalisé. Il garde son emploi, mais il va être isolé. Il n'y aura pas de promotion. Dans d'autres milieux, ça décourage de porter plainte.
Oui, puis c'est pour ça que dans la politique de prévention, il va devoir l'employeur mettre en place de la formation, de l'information, de la sensibilisation. Les juges, les conciliateurs, les intervenants, la CNSST, ceux qui s'occupent de l'indemnisation de ceux qui réclament, auront été formés, seront formés sur les mythes et les stéréotypes en matière sexuelle. Je pense qu'il faut se donner un écosystème qui est favorable, qui est accompagnateur de la manière la plus humaine possible, puis éviter les impacts négatifs en milieu de travail. Mais c'est sûr que on pourra pas éviter tous les cas. Je pense que c'est l'objectif qu'il n'y en ait plus, qu'on combatte le mieux possible, mais il y aura évidemment des cas qui vont s'échapper ici et là.
Vous êtes le ministre du Travail. Est-ce que vous avez vent de ces problèmes pour des travailleurs mexicains de venir au Québec? Ils sont comme bloqués à la frontière plutôt que de se retrouver dès le mois d'avril là sur les fermes québécoises?
Ben, écoutez, ma collègue au ministère de l'Immigration travaille ça. Évidemment, il y a des cas, mais dans la vaste majorité, les travailleurs étrangers temporaires, notamment, qui viennent au Québec, le font de la manière la plus harmonieuse possible. Ils répondent à nos besoins. Ils sont des atouts. À la CNSST, on s'assure de qu'ils soient traités avec équité, qu'ils aient accès à des bonnes conditions de travail. Quand ils arrivent chez nous, la grande majorité des milieux de travail les accueille, les intègre convenablement et en leur disant qu'ils ont accès aux mêmes droits, aux mêmes obligations que les travailleurs québécois qui sont ici.
Encore faut-il qu'ils soient capables de passer la frontière. Moi,
absolument.
J'ai des producteurs agricoles qui me disent, on ne sait pas si on aura notre main-d'œuvre pour commencer les travaux, là.
Oui, bien là, ça devient une préoccupation extrêmement importante, puis s'il y a des enjeux qui doivent être réglés par Ottawa, ça, on est en communication constante avec Ottawa pour s'assurer qu'il n'y ait pas de barrière de cette nature-là. Évidemment, encore une fois, je suis contraint de vous dire que chaque cas en est un d'espèce, mais quand ça respecte les règles d'immigration, ici, il faut s'assurer que ces personnes-là aient un accès au Québec et viennent répondre aux besoins de nos producteurs ici au Québec.
Merci, M. Boulay. Bonne journée.
Merci, M. Arcan. Bonne journée. À bientôt.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On commence avec les championnats mondiaux de patinage artistique parce que le Canada finit premier.
Exactement. Ça se passe du côté du Centre Bell et le couple qui représente le Canada, Maxime Deschamps et Dena Stelato-Dudek, qui ont été sacrés champions du monde. Et pour nous en parler, il est un champion du monde. Maxime Deschamps est avec nous. Bonjour, Maxime.
Bonjour.
Comment vous va le titre de champion du monde ce matin?
J'ai encore de la misère à y croire. Je suis sur un nuage présentement. Mais c'est vraiment spécial.
Racontez-nous un peu la performance que vous avez eue. Parce que vous aviez de la pression quand même, vous étiez à domicile. Comment vous avez négocié avec cette pression?
Ah, c'était certainement la fois où j'étais le plus stressé de toute ma carrière. On a été préparé, ça faisait longtemps qu'on voyait ça venir ici à Montréal, donc on préparait, on faisait de la préparation mentale. Pendant les entraînements aussi, on s'entraînait avec du bruit, les gens qui nous encourageaient. Donc, c'est toute cette préparation qui nous a permis d'être capable de performer ici au Centre Bell.
Maxime, vous n'avez pas une histoire banale. Tu as 32 ans, tu as déjà songé à la retraite, tu as eu plusieurs partenaires. Ta partenaire, elle, a 40 ans. Pendant une période de temps, je pense, c'est quoi, 15-16 ans, n'a pas touché à la glace. Et là, vous êtes champion du monde. Écoute, c'est un parcours improbable.
Oui, exactement. On a tous les deux des histoires incroyables qui fait preuve de détermination, persévérance. Je suis toujours je trouve extraordinaire ce que Diana elle arrive à faire à 40 ans d'être championne du monde. Vraiment chapeau à elle, puis je suis vraiment très épaté d'elle.
Vous avez dit tantôt que vous étiez très stressé, mais visiblement vous gérez bien le stress.
Oui, ben on a beaucoup d'expérience en compétition, donc toutes les compétitions que j'ai eues au cours de ma carrière, j'ai toujours appris de quoi, donc j'ai développé des outils et c'est comme ça que j'ai réussi à passer au travers ici.
Pourriez-vous partager vos outils avec nous, là, parce que
s'il vous plaît, oui.
Les gens, le stress, c'est un mal du siècle, comme on dit. Comment vous gérez ça, le stress?
Le stress, il va toujours être là. Ça fait partie de la game, donc soit qu'on l'accepte, soit qu'on le combat. Puis j'ai juste décidé de l'accepter. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ça va être là. Des journées, il va se manifester d'une certaine façon. Une autre journée, ça va être différent. Donc, je vais juste accepter puis aller avec la façon qui va se présenter.
Quand il y a une compétition sportive, je vais prendre un match de hockey. Bon, ben on marque des buts, puis celui qui en compte le plus gagne et tout ça. Mais c'est la performance de l'athlète qui, en bout de ligne, compte. Quand on est évalué, moi, c'est cette dimension-là, vous êtes dépendant de l'opinion, pas des faits, mais de l'opinion des gens qui vont statuer si vous êtes numéro 1, numéro 2 ou numéro 3.
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui se passe, mais nous, tout ce qu'on fait, c'est se concentrer sur nous, ce que l'on contrôle. Donc, quand on est sur la glace, on pense à faire une chose à la fois, puis de passer au travers, puis on laisse entre les mains des juges, parce qu'à la fin de la journée, on n'a aucun contrôle sur ça.
Maxime Deschamps, je veux savoir, là, je vais parler d'âge. Tu disais, tu as 32 ans, ta partenaire a 40 ans. Il y a une visée pour les prochains Jeux olympiques, c'est en 2026. Qu'est-ce que l'âge amène dans le processus? Est-ce que ça devient un handicap ou c'est plutôt la maturité au fil du temps que vous êtes capable d'acquérir qui fait en sorte que vous êtes capable de compétitionner?
Je veux dire, c'est vraiment la maturité. On s'adapte avec ce qu'on a. Bien sûr, il faut des fois adapter l'entraînement si on a plus de fatigue vers la fin de la semaine, mais on fait vraiment attention à nous, à la récupération. Je vais prendre l'exemple sur Diana. Après notre journée d'entraînement, elle va passer 2 à 3 heures pour juste récupérer pour être prêt pour le lendemain. Donc, c'est vraiment à tous les jours, il faut qu'elle fasse des efforts de plus pour pouvoir récupérer pour être prêt le lendemain.
Maxime, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Maxime Deschamps, donc champion du monde avec sa partenaire Dena Stelato-Dudek, donc qui ont remporté hier en couple le championnat du monde.
Puis le Canadien, ben
ouais, ça n'a pas été facile. C'est pas des champions du monde hier. C'est une défaite de 4-1 face aux Canucks de Vancouver. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça parce que Juraj Slafkovský a marqué son 15e filet de la saison sur une passe de Cole Caulfield. Donc juste pour toi, Paul. Il a fait ça juste pour toi. Il s'est lancé de la ligne bleue. Slafkovský a fait dévier.
On a l'extrait au moment où Martin fait la description de ce grand moment du match.
Caulfield reprend la ligne bleue, drip, tire de loin, compte! Peut-être une déviation de Slafkovský. S'il n'a pas touché à la rondelle, il a gêné visuellement le gardien.
Voilà.
Ben voilà, et le prochain match, ça sera dimanche face au Kraken à Seattle.
Merci, monsieur.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.